Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. En tout cas, ici à Paris, il est 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox. Ce soir, la désinformation en Afrique de l'Ouest, qui est favorisée par la fragilité de la presse. Et le vrai du faux concernant des images censées montrer ce qui se passe au Liban. Images trafiquées, utilisées par les différentes parties au conflit. Dans un peu plus d'une heure, après le journal, ce sera Accent du Monde, avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant ce qui a été dit à l'Assemblée Générale de l'ONU au sujet de la situation qui prévaut actuellement au Proche-Orient. Il sera également question des feux de forêt au Brésil, des prochaines élections en Roumanie et du festival du film latino-américain de Biarritz. Afrique Soir s'intéressera, entre autres, au combat au Soudan, malgré les appels répétés de l'ONU à un cessez-le-feu. Et puis dans deux heures, sur Radio France Internationale, ici l'Europe, qui recevra Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, ancien Premier ministre du Luxembourg, dira que l'extrême droite sort renforcée de, dit-il, ses imitations politiques. RFI Soir, 17h en temps universel, tout de suite le grand journal. Et c'est avec vous Stéphane Genest, à la une, ces nouvelles frappes de l'armée israélienne sur Beyrouth.
6 immeubles totalement détruits, Israël divisé, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le mouvement vient de communiquer et affirme, je cite, qu'il va bien. On retrouve notre envoyé spécial dans la capitale libanaise dès le début de ce journal. Et cette opération militaire israélienne depuis le début de la semaine est assumée par le premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il persiste et signe, Israël va continuer jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. C'est le dossier du journal. Au sommaire également, cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle américaine qui promet de résoudre la guerre en Ukraine. 4 morts après le passage de l'ouragan Hélène en Floride et le nouveau gouvernement français qui était réuni en séminaire aujourd'hui. On y était et on vous explique ce qu'il s'y est dit.
Et puis dans un quart d'heure, l'actualité sportive, football avec l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1 tout à l'heure. En ce moment, Brest joue à Auxerre et tout à l'heure, le Paris Saint-Germain recevra Rennes. Tout d'abord, donc, Stéphane, ces fortes explosions entendues tout à l'heure à Beyrouth.
La capitale libanaise et sa banlieue sous les bombardements de l'armée israélienne. L'armée qui annonce une frappe sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Sans plus attendre, on retrouve notre envoyé spécial sur place, Abla Jounaïdi. Vous êtes non loin des sites qui ont été touchés.
Oui, oui, Sahafa. Nous sommes sur place, en effet, où a lieu une des déflagrations dans la banlieue sud de Beyrouth. Il était 18h25 environ ici, lorsque 6 très fortes déflagrations ont tonné les unes derrière les autres. Elles ont été entendues dans tout Beyrouth, des frappes lourdes qui ont visé la banlieue sud, donc le fief du Hezbollah sur la route de l'aéroport, où le quartier se trouve, le quartier général du Parti de Dieu. Il a été touché. Également, la presse israélienne annonce que son chef, Saïd Nasrallah, a été visé. Impossible de dire si le numéro 1 du mouvement chiite est mort ou vivant. Une source proche du mouvement dit ce soir qu'il va bien. Ce qui est certain ce soir, en tout cas, c'est que plusieurs autres bâtiments se sont effondrés. On se trouve en ce moment devant l'un d'eux. Les secours ont afflué dans le quartier où la panique s'est emparée des gens. Les ruines fumantes d'un immeuble résidentiel se trouvent devant nous avec des familles en pleurs, inquiètes pour leurs proches. Qui se trouvent dans les décombres. Les hôpitaux de Beyrouth s'attendent à beaucoup de victimes ce soir et elles font appel au doute du sang à toute la population.
Abla Jounaïdi, envoyé spécial de RFI à Beyrouth avec les moyens techniques de Jadel Khoury. Merci à tous les deux.
Et dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prend la parole à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.
Son discours était attendu. Il n'y a pas eu de surprise à la tribune. Benjamin Netanyahou a rejeté tous ses cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Vous êtes en ligne de New York pour RFI. Julien Chavanne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi le discours du Premier ministre israélien tout à l'heure et d'abord, Julien, un mot sur l'ambiance dans cette grande salle de l'Assemblée Générale.
Oui, parce qu'à l'arrivée de Benjamin Netanyahou, la salle s'est en partie vidée. Les diplomates de plusieurs pays arabes ont quitté leur fauteuil en signe de protestation. Mais l'espace réservé au public au premier étage était, lui, bien rempli essentiellement par des sympathisants du dirigeant israélien qui ont applaudi tout au long de son discours.
Alors voilà pour le décor. Sur le fond, Julien, c'est un Benjamin Netanyahou inflexible qui s'est présenté devant l'ONU.
Exactement. Le Premier ministre israélien a tenu un discours très offensif.
Je n'avais pas prévu de venir ici cette année, mais après avoir entendu les mensonges et les calomnies proférées contre mon pays par de nombreux orateurs présents à cette tribune, j'ai décidé de venir et de remettre les pendules à l'heure en parlant au nom de mon peuple et de mon pays pour rétablir la vérité.
Et la vérité de Benjamin Netanyahou, c'est que son pays ne fait que se défendre, qu'il continuera jusqu'à ce que le Hamas ait disparu de Gaza, que les otages soient libérés, que les habitants du nord d'Israël rentrent chez eux et que le Hezbollah soit détruit au Liban.
Alors Julien, le cessez-le-feu proposé par la France et par les États-Unis est donc bel et bien enterré?
Oui, les diplomates français avaient encore du mal à y croire avant le discours de Benjamin Netanyahou, mais là, ils ne pourront plus faire semblant. Il n'y aura pas de trêve de 3 semaines, pas maintenant en tout cas. Le dirigeant israélien n'a d'ailleurs pas dit un seul mot sur cette proposition franco-américaine de cesser le feu. Il est même prêt à ouvrir un nouveau front contre l'Iran si Israël était attaqué.
J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a aucun endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre, et cela est vrai pour tout le Moyen-Orient.
Benjamin Netanyahou qui a aussi durement critiqué les Nations Unies.
Oui, l'ONU accusé d'avoir un prisme antisémite, selon le Premier ministre israélien, qui dénonce les multiples condamnations reçues ici par son pays.
Jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, et jusqu'à ce que ce marais antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée partout par les gens impartiaux comme rien de plus qu'une farce méprisante.
Et dès la fin de son discours, il est donc passé aux actes avec cette nouvelle frappe à Beyrouth.
Le dossier du journal avec Julien Chaban en direct de New York pour RFI.
Toujours à New York où il est actuellement 13h06. Cette rencontre très délicate qui vient de s'achever. Rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Entre l'ancien président américain, candidat républicain à la présidentielle, et l'actuel président ukrainien. Ça s'est donc passé à New York, plus précisément à la tour Trump, Guillaume Nodin.
Moins de 24 heures, c'est le laps de temps entre le rendez-vous de Volodymyr Zelensky avec la candidate démocrate Kamala Harris et ses retrouvailles avec Donald Trump 5 ans après leur dernière rencontre. Une sorte de grand écart entre un soutien quasiment inconditionnel dans la guerre face à la Russie et un échange avec un partenaire beaucoup plus critique, mais Volodymyr Zelensky ne peut pas vraiment faire autrement.
Nous comprenons que jusqu'en novembre, nous ne pourrons pas arrêter Poutine. Nous devons le faire, nous essaierons sur le champ de bataille avec nos soldats héroïques. Mais nous comprenons qu'après novembre, il faudra prendre des décisions et nous espérons que les États-Unis seront très forts et nous comptons sur eux. C'est pourquoi j'ai décidé de rencontrer les deux candidats.
Malgré ses reproches récurrents au président ukrainien, Donald Trump semble apprécier ce moment et réitère ses promesses.
Nous avons une très bonne relation. J'ai aussi une très bonne relation avec le président Poutine et je pense que chacun joue un rôle dans cette situation. Si nous gagnons l'élection, je pense que bien avant le 20 janvier, avant que je sois officiellement président, nous pouvons trouver quelque chose qui soit bon pour les deux parties.
Pour l'instant, les positions russes et ukrainiennes sont si radicalement opposées que la guerre dure depuis près de 3 ans. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Toujours aux États-Unis, puisque la Floride panse ses plaies au lendemain du passage de l'ouragan Helene.
4 personnes y ont perdu la vie, plus d'1 million de personnes sont sans électricité à l'heure où l'on se parle. Helene, qui a été reclassée en tempête tropicale et qui poursuit sa route dans le sud-est du pays. Alors les dégâts sont certes importants, mais ils sont moins lourds que ceux causés par l'ouragan Ian, qui avait frappé la Floride en 2023, David Thompson.
Oui, les dégâts sont importants. L'évaluation ne fait que commencer avec un bilan humain qui s'alourdit d'heure en heure à mesure que les secours progressent dans les zones inondées. 20 de victimes sont maintenant à déplorer. Au moins 11 dans l'État de Géorgie, 8 en Floride. Le premier décès avait été annoncé hier soir par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il s'agit d'une personne tuée par un panneau de signalisation projeté contre sa voiture dans les environs de Tampa. Par rafale, hier soir, les vents ont soufflé jusqu'à 250 km/h. Pour autant, effectivement, le bilan reste encore moins dévastateur que celui laissé dans le sillage de l'ouragan Ian, pourtant d'intensité similaire en 2023. 161 personnes avaient été tuées à l'époque, beaucoup noyées par la brusque montée des eaux dans leur propre maison. Cette fois, Helene a touché terre dans une zone beaucoup moins peuplée, le nord de la Floride, moins peuplée que le sud-ouest, très touristique. Ce matin, plus de 4 millions de personnes sont encore sans électricité, mais 30 000 techniciens sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. La Floride a reçu le soutien de plusieurs États américains voisins. voisins pour un retour à la normale au plus vite.
David Thompson, en direct de Miami, en Floride.
Vous écoutez RFI Soir et dans le grand journal, le pape François qui poursuit sa visite en Belgique.
Et à cette occasion, le souverain pontife a assuré tout à l'heure que l'Église devait, je cite, avoir honte et demander pardon pour les violences sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé. Déclaration alors que les attentes des victimes belges sont fortes dans le pays, marquées par de nombreux scandales. Le pape François assure aussi faire tout son possible pour que ces faits ne se reproduisent pas.
Venons-en à cette information publiée par le Wall Street Journal. La Chine aurait caché le naufrage d'un sous-marin à propulsion nucléaire.
L'incident se serait déroulé en mai ou en juin 2024. Voilà ce que révèle le quotidien américain. D'après un responsable de la défense américaine, Pékin aurait tenté de dissimuler ce naufrage. Cela se serait passé au sein des chantiers navals de Wuhan, alors que le sous-marin était encore en construction. Le ministère chinois des Affaires étrangères, lui, déclare ne pas avoir connaissance de l'incident. Précision signée Franck Alexandre.
Au printemps dernier, une photo satellite d'un navire en construction avait attiré l'attention. Il s'agissait de la tête de série d'une nouvelle classe de sous-marins nucléaires d'attaque, classe Zhou, type 41. Mais une nouvelle photo prise quelques mois plus tard laissait apparaître une activité inhabituelle. Quatre barges munies de grues étaient déployées à l'endroit exact où aurait dû se trouver le submersible. Explication, le sous-marin a coulé alors qu'il était à quai, probablement lors d'un essai de plongée statique, dit un expert du Pentagone. Pékin a tenté de taire l'événement et à ce stade, personne ne sait si le bateau était chargé en combustible nucléaire. Pour la marine chinoise, le revers est immense et ce n'est pas le premier. À l'été 2023, l'APL avait déjà perdu l'un de ses sous-marins nucléaires d'attaque de type 93. Cette fois, le bâtiment s'était retrouvé piégé le long des côtes chinoises dans une barrière d'ancrage, un entrelac de chaînes mis en place pour empêcher justement l'intrusion de sous-marins ennemis. En l'espace d'une année, la sous-marinade chinoise a donc peut-être perdu deux de ses fleurons par manque de compétences, ce qui pourrait rebattre les cartes quant à la réelle montée en gamme de la marine de guerre chinoise.
Franck Alexandre, spécialiste défense à RFI. De nouveaux ministres intègrent le gouvernement de Michel Barnier. En France, d'abord, Charlotte Parmentier-Lecoq, nommée ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Et puis Jean-Louis Thiriot, lui auprès des armées et des anciens combattants. Tous les deux ont été nommés cet après-midi. Midi, cela 6 jours après la composition officielle de l'équipe gouvernementale de Michel Barnier.
Ils ont directement rejoint finalement le séminaire gouvernemental qui s'est déroulé à l'hôtel Matignon.
Un séminaire présidé donc par Michel Barnier. Il a réuni vendredi tout son gouvernement pour s'accorder sur la feuille de route qu'il va présenter ce mardi devant l'Assemblée nationale, avec un objectif pour lui, tenter d'asseoir son autorité, déjà mise à mal par certains ministres dans un contexte budgétaire très contraint. Et vous avez suivi ce séminaire, Charlotte-Julien Tomaca.
Oui, donner un cap et resserrer les liens, c'est dans cette optique que Michel Barnier réunissait ses ministres ce vendredi après-midi. Avec, vous l'avez dit, deux nouveaux entrants. Le Premier ministre veut que son gouvernement apprenne à se connaître et à travailler ensemble, nous y disait un conseiller cet après-midi. Et après un rapide point sur la situation économique et financière du pays par les deux ministres de Bercy, le gouvernement a été réparti dans les salons de Matignon par groupe de 8 avec des voisins de table imposés. Tous les ministres sont mélangés et non pas par famille politique. L'occasion donc de faire connaissance. Je cite, il faut que je ressorte mon trombinoscope avant d'y aller, plaisantait une ministre avant de rejoindre ses camarades en début d'après-midi, mais surtout l'occasion de réfléchir pour faire sortir des idées fortes sur 5 axes, immigration, niveau de vie, finances, services publics et transition écologique. Objectif, alimenter la déclaration de politique générale du Premier ministre qui aura lieu mardi prochain. Et après ces ateliers de travail, c'était donc une photo de famille qui était prévue, puis un pot pour les ministres afin de poursuivre cette familiarisation.
Charlotte Turien, Tomaca du service politique de RFI.
Et nous y reviendrons après-demain dans Dimanche politique. Et ce nouveau gouvernement qui est mis sous pression aussi par le Haut Conseil pour le climat.
Il lui demande une direction claire et critique. Les coupes budgétaires qui nuisent à la confiance dans la transition climatique. Le gouvernement précédent, celui de Gabriel Attal, lui, avait annoncé en février des économies de 2 milliards d'euros de moins pour les programmes écologie, développement et mobilité durable.
Et puis la disparition d'un visage et d'un sourire qui a accompagné plusieurs générations de téléspectateurs.
Le visage de Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma britannique. Elle s'est éteinte ce vendredi à l'âge de 89 ans. Elle était notamment connue du grand public pour ses rôles dans la saga Harry Potter et dans la série Downton Abbey, Elisabeth Le Carré.
I'm a woman of many parts.
Au cours de sa longue carrière, Maggie Smith a raflé toutes les récompenses imaginables, y compris 2 Oscars. Mais qui aurait pu deviner qu'elle deviendrait, à 70 ans passés, une célébrité planétaire. À l'orée des années 2010, deux rôles vont lui valoir l'adulation du public, celui du professeur McGonagall dans Harry Potter et surtout celui de l'acariâtre douairière de la série télévisée Downton Abbey.
He hates to leave America. I should hate to go there.
Apothéose d'une carrière extraordinairement riche, débutée sur les planches en 1950. Au cinéma comme au théâtre, Maggie Smith a touché à tous les genres, registre comique ou tragédie. À l'affiche de près de 60 longs métrages, elle a donné la réplique à Laurence Olivier dans Othello, comme à Whoopi Goldberg dans Sister Act. Ce parcours impressionnant lui avait valu d'être nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 90 et compagnon d'honneur en 2014.
Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI, puis juste avant votre journal des sports dans RFI Soir, c'est dans quelques secondes, cette information qui nous rappelle finalement que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont définitivement terminés et que la capitale française retrouve son semblant de quiétude. Les anneaux olympiques accrochés sur la tour Eiffel depuis le mois de juin ont été retirés, mais en principe ils doivent être remplacés par une structure plus pérenne pour y rester jusqu'en 2028, comme le veut la maire de Paris, Anne Hidalgo.
C'était donc le journal de Stéphane Geneste. Et venons-en au sport, et cette fois c'est avec vous Thomas de Saint-Léger, du football. Deux matchs ce soir en ouverture de la sixième journée de Ligue 1.
Les matchs des deux équipes françaises engagées mardi en Ligue des Champions leur laissent le temps de récupérer, c'est sympa. Brest joue à Auxerre, coup d'envoi donné il y a un petit quart d'heure, toujours 0-0. Et puis un peu plus tard, le PSG recevra Rennes. Paris, leader de cette Ligue 1, meilleure attaque avec 17 buts en 5 matchs. Ça vous donne une idée du défi qui attend l'arrière-garde rennaise, en particulier l'un de ses nouveaux tauliers, le Ghanéen Alidou Seydou, latéral de formation, repositionné dans l'axe d'une défense à 3. Un test concluant même pour son entraîneur Julien Stéphan.
Je trouve qu'il avait fait aussi gros match contre Lyon en jouant latéral gauche. Je pense que de l'avoir utilisé, ça peut être encore le cas, de l'avoir utilisé à différents postes, je pense qu'à n'importe quel âge, ça nourrit le joueur, ça le nourrit, ça continue à développer sa réflexion sur le jeu. Quand tu joues axial droit ou axial gauche dans une défense à 3, surtout quand on demande de prendre des initiatives avec le ballon, il est exposé ce poste-là, parce qu'il faut des responsabilités, il faut du caractère pour sortir le ballon. Il est aussi exposé parce que quand les pistons jouent aussi haut, bah, il y a une zone importante à couvrir dans leur dos. Mais il a toutes les qualités à la fois athlétiques et d'engagement pour pouvoir gérer ça. Donc oui, il a vocation à devenir un des leaders, mais il a aussi vocation à avoir beaucoup de responsabilités dans le jeu collectif de l'équipe.
Une des responsabilités, Alidou Seydou en a aussi en sélection. Il est régulièrement titulaire avec les Black Stars du Ghana.
Le football ailleurs en Europe, à présent, avant le choc Bayern-Munich, Bayern-Leverkusen, demain, le Borussia Dortmund lance la 5e journée de la Bundesliga.
Le Borussia, seulement 8e après 4 matchs, mais le Borussia peut remonter provisoirement à la 2e place à condition de battre Bochum ce soir. Ce soir aussi en Italie, une autre équipe moyennement partie, le Milan AC reçoit le 17e Lecce en ouverture de la 6e journée de Serie A.
Alors un mot de futsal.
Futsal.
Futsal, c'est le foot en salle.
Exactement.
Et l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde?
Ça se passe en Ouzbékistan et les Bleus ont éliminé la Thaïlande tout à l'heure. 5-2, prochain adversaire. Lundi, le Paraguay.
En tennis, c'est fini pour les deux dernières Françaises encore en lice au tournoi de Pékin.
Diane Perry, Paris, dominée par Jessica Pegula et Clara Burel, battue par une autre Américaine, Coco Gauff, tournoi de Pékin auquel ne participe pas Caroline Garcia, l'ancienne numéro 4 mondiale, ne rejouera d'ailleurs plus cette saison. Elle vient de l'annoncer, blessée à l'épaule et surtout usée, essorée psychologiquement. La Française a besoin d'appuyer sur le bouton pause, faire le vide, pour mieux revenir, Babacar Diarra.
Caroline Garcia a dit stop. À 30 ans, la joueuse veut s'éloigner de la frénésie du circuit mondial du tennis féminin, un rythme qui l'a menée à avoir, selon ses propres termes, un état d'esprit toxique. Dépressive, Garcia accumule les crises de panique, les larmes avant les matchs et des périodes d'anxiété dues à l'épuisement. Le plaisir n'y est plus et elle n'arrive pas à se détacher de ses résultats décevants. Depuis avril, Garcia a été incapable d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans le moindre tournoi et ses échecs ont eu un effet dévastateur spectateurs sur son moral au quotidien. Numéro 4 mondial en juin 2023, elle broie du noir avec une dégringolade à la 36e place du classement mondial. Face à ce constat, l'heure est venue pour elle de rentrer dans sa bulle plus d'un mois et demi avant la fin de saison. Objectif, prendre du temps de repos, se remettre les idées et l'épaule en place, puis revenir début 2025 avec dans le viseur le premier grand chelem de l'année, l'Open d'Australie.
Encore une information, les mondiaux de cyclisme sur route à Zurich ont été endeuillés.
On a appris cet après-midi le décès de la toute jeune Suissesse Muriel Führer, 18 ans, des suites d'une chute sur la course en ligne junior femme. Hier, chute intervenue sous la pluie et dans des conditions encore floues. Suivant le souhait de la famille de Muriel Führer, les épreuves reines de la semaine, les courses élites femmes samedi, demain donc, et hommes dimanche sont maintenues.
Il est maintenant 19h, passé de 20 minutes ici à Paris. C'était les sports avec Thomas de Saint-Léger. RFI Soir vous emmène maintenant en Autriche. Après-demain, il y aura des élections législatives et au-delà, cela permet de choisir un chancelier. Le FPÖ, qui est le parti d'extrême droite, fait la course en tête dans les sondages pour ces législatives, crédité de 27% des voix actuellement. Alors, Isorias, ce n'est pas une surprise.
En effet, car les élections de ces derniers mois, qu'elles soient locales ou européennes, ont confirmé que le FPÖ était bel et bien de retour à son plus haut niveau, totalement remis du scandale de corruption de l'Ibizagate qui l'avait affaibli en 2019 lors des dernières élections législatives. Mais s'il y a un air de déjà-vu ici en Autriche, il est trompeur, car le FPÖ d'Herbert Kickl, qui en a pris la tête en 2021, a une stratégie différente de celle des années passées. Personnalité clivante, Herbert Kickl s'est imposé comme le numéro 1 durant la pandémie de coronavirus, en se faisant le porte-voix des anti-vaccins, mouvement qui a été important en Autriche. Depuis, il assume un discours radical, tant sur le fond que sur la forme, loin d'une stratégie de dédiabolisation. Il use de termes qui sont des références à peine voilées au langage national-socialiste, assume des positions pro-russes, parle d'une orbanisation de l'Autriche et défend des positions toujours plus extrêmes en matière d'immigration, ne cessant de répéter qu'il veut une Autriche forteresse.
Mais les conservateurs ne sont pas loin derrière le FPÖ.
Oui, si le FPÖ est donné en première position depuis des mois dans les sondages, ces derniers jours, l'écart s'est resserré avec le parti conservateur ÖVP, mené par l'actuel chancelier Karl Nehammer. Le ÖVP est aujourd'hui crédité de 25% des intentions de vote, devant les sociaux-démocrates du SPÖ à 21%. La campagne des législatives a été perturbée par la tempête Boris qui a durement touché l'Autriche. Et le FPÖ, qui n'a de cesse de parler d'hystérie climatique, a peut-être perdu ici quelques électeurs. Il est donc envisageable que les conservateurs arrivent en tête ce dimanche devant le FPÖ, ce qui serait une surprise.
Une surprise, dites-vous, une surprise qui a son importance pour les négociations qui s'annoncent après le scrutin d'après-demain, de dimanche.
En effet, car la question est de savoir avec qui les conservateurs pourraient s'allier pour former un gouvernement. Ils ont déjà choisi par deux fois de faire alliance avec le FPÖ ces dernières années. Le chancelier Karl Nehammer n'a pas exclu de discuter avec l'extrême droite, mais a en revanche exclu de négocier avec Herbert Kickl lui-même, justement en raison de cette radicalité. L'hypothèse d'un nouveau gouvernement FPÖ-ÖVP est donc plausible et même probable, selon certains observateurs, si le ÖVP arrive premier, car il serait ainsi en position de force au sein d'un futur gouvernement. Si en revanche il arrive en deuxième position, le ÖVP pourrait préférer s'allier aux sociaux-démocrates et éventuellement au petit parti libéral Neos pour former une coalition. Bref, si l'extrême droite a de bonnes chances d'arriver en tête ce dimanche, rien n'est sûr quant à une possible participation gouvernementale.
Isorias, ce scrutin qui sera à suivre bien évidemment dimanche sur Radio France Internationale.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
À présent, feuilletons le magazine L'Équipe, dont vous êtes le rédacteur en chef adjoint, Jean-Michel Brochen. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, à la une du magazine, et bien évidemment largement en page intérieure, un homme surnommé le Chevalier en cage. Il s'agit de Benoît Saint-Denis et c'est un combattant de MMA, sachant qu'il y a demain un match très important.
Oui, donc demain, l'UFC, qui est une des ligues d'MMA les plus importantes dans le monde, donne son gala, j'ai envie de dire, sa soirée annuelle à Paris. Voilà, donc c'est à l'événement, c'est à l'Accor Arena, donc toute la soirée de demain. Et c'est un événement considérable dans le monde du MMA.
Et surtout pour cet homme, hein, il est 12e mondial, donc il est quand même.
Voilà, donc dans sa catégorie des moyens, Benoît Saint-Denis, donc il a 28 ans. C'est un des combattants français actuellement au MMA qui est une des figures du MMA français et qui a beaucoup progressé ces dernières années au classement et qui dispute un combat très important puisqu'il défie le 11e mondial. C'est un Brésilien et une victoire qu'on peut attendre de sa part lui permettrait peut-être de rentrer dans les 10 premiers et de continuer sa progression au classement mondial, sachant que le MMA est un sport dans lequel on peut performer quand même assez tard encore, puisque son adversaire du soir, demain, il a 35 ans.
Alors il y a le sportif, il y a aussi l'homme, parce qu'il a un parcours quand même assez assez atypique. C'est un ancien membre, un ancien soldat des forces spéciales françaises.
Voilà, Benoît Saint-Denis, pendant 5 ans, a été déployé notamment au Sahel, dans le régiment du 1er RPIMA, donc c'est les forces spéciales de l'armée française. Donc avec des missions qu'il évoque un peu dans cet article, hein, mais qui sont quand même du domaine du secret, hein, pour beaucoup d'entre elles. Donc du contre-terrorisme, des missions de protection, notamment de François Hollande quand il était allé à Tombouctou dans les années 2010.
Il faut dire qu'il est fils et petit-fils d'officiers. Hein, donc il
voilà,
a pas
donc il y a quand même une tradition un peu militaire.
Alors pourquoi il s'est lancé dans une autre forme de combat? C'est ben,
disons qu'au bout de quelques années, au bout de 5-6 ans dans les forces spéciales, il en a eu un peu marre. Bon, il raconte aussi, en évoquant un peu ses anciens copains ou ses anciens militaires avec qui il était, le stress post-traumatique des opérations qu'ils ont pu mener. Donc on peut supposer que lui-même n'est pas sorti complètement...
Peut-être que ça lui fait sa force,
voilà,
aujourd'hui.
Il s'est lancé après dans le combat corps à corps, hein, parce que c'est un peu ça quand même, le MMA, c'est du corps à corps... C'est un sport qui a été interdit en France pendant un certain moment, qui aujourd'hui est autorisé. C'est un sport très physique. On apprend aussi dans cet article un petit peu les choses qu'on ignorait, c'est que les combattants de MMA, outre les blessures, peuvent contacter à force de se frotter les uns contre les autres, des staphylocoques dorés, des choses comme ça. Donc c'est une vie quand même un peu de combat, une vie un peu dans la douleur. Mais c'est sa façon de vivre à lui, à Benoît Saint-Denis, tout en sachant qu'il a à côté de ça un côté très traditionnel, le drapeau, la France. Voilà, donc son éducation militaire le suit même un petit peu dans la manière dont il s'exprime par rapport à son sport.
Un autre sport beaucoup plus doux, celui-là, c'est le tennis, avec cette enquête sur le cyberharcèlement dans le tennis féminin pour des mauvais perdants qui ont parié sur ces joueuses et qui finalement veulent leur faire payer leur défaite pécuniaire, on va dire.
Oui, en fait, c'est aussi de la violence, hein, quelque part. C'est le cyberharcèlement que subissent aujourd'hui en masse, hein, les joueurs et les joueuses de tennis professionnels, les meilleurs, mais aussi le 200e, les professionnels un peu de petit niveau qui sont alignés dans des tournois parfois à l'autre bout du monde. Alors on a l'exemple récent de cette jeune femme de 23 ans, Alice Tubelo, 23 ans, qui a perdu un match au Pérou dans un tournoi de deuxième zone, mais qui, après sa défaite, a reçu... plus de 300 messages malveillants sur ses réseaux sociaux, menaces de mort, menaces de torture, et dont le compte Facebook a été piraté avec une fausse information qui a été lancée, comme quoi son père était un pédocriminel. Donc voilà, ça peut aller très très loin, c'est une grande violence, et on raconte un peu comment les joueurs essayent de se, les joueuses essayent de se protéger, comment les instances essayent de les protéger, tout en... finalement, étant un petit peu complice du système, puisque on s'aperçoit que les instances du tennis, l'ATP notamment, revend à des sites de paris les données officielles des matchs, et ce sont sur ces données qu'en fait les sites peuvent s'appuyer pour fabriquer leurs paris.
Alors il y a cette enquête dans le magazine L'Équipe, il y a aussi un reportage sur une compétition de surf qui vient d'avoir lieu en Californie. Alors là-bas, dans cette compétition, pas de blonds aux yeux bleus, mais des noirs, et que des noirs.
Oui, alors c'est au sud de Los Angeles, à Huntington Beach. C'est un rassemblement qui a eu lieu depuis quelques années, qui a eu lieu au mois de septembre. Un rassemblement de surfeurs noirs. Voilà, sachant qu'effectivement, les noirs sont très très peu représentés dans le monde du surf, notamment aux États-Unis. Et c'est un ancien surfeur amateur qui est aujourd'hui devenu un producteur de télé assez connu, qui a lancé cette opération
Justement, il nous explique un petit peu dans l'article qu'il trouvait que la cause un peu noire aux États-Unis était un petit peu épuisée par les manifestations post-George Floyd, par le système Black Lives Matter, et qu'il voulait provoquer quelque chose d'un peu plus positif, un peu plus joyeux, un peu plus réjouissant. Il s'est lancé un peu dans la construction de ce rassemblement qui a beaucoup de succès et qui est vu de manière assez positive et très positive. Donc c'est une façon un peu positive de mettre en avant la cause noire aux États-Unis.
Merci Jean-Michel Brochen du magazine L'Équipe. À suivre tout de suite sur RFI les Dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud.